106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Et Serge, je vais t'interpeller d'entrée de jeu avant de présenter notre invité. Si je te pose la question, est-ce que le Canadien est encore un grand club? Tu me réponds quoi?
Je te dirais non. Non, mais quand je te dirais non, on le voit par les performances de l'équipe en ce moment, qui occupe le 28e rang aux dernières nouvelles, qui choisirait 4e. C'est sûr qu'il va y avoir la fameuse loterie. Mais tu sais, quand tu parles de l'histoire du Canadien, je pense qu'on est loin en ce moment. Mais en même temps, tu sais qu'il y a des équipes l'an dernier qui n'ont pas participé aux séries éliminatoires, puis cette année, elles ont réussi justement à se qualifier là, pour ce qu'on appelle la grande danse du printemps.
Est-ce que ça peut revirer de bord assez vite ou c'est une tendance générale qui s'est installée chez le Canadien? La médiocrité, j'entends notre prochain invité va tenter d'y répondre. En tout cas, on va y poser la question assurément parce qu'il est professeur d'études littéraires à l'Université de Montréal. Benoît Melançon est aussi l'auteur de deux livres, Les yeux de Maurice Richard, une histoire culturelle et Langue de Poc, abécédaire du hockey. Bonjour, M. Melançon.
Bonjour.
Donc, est-ce que c'est une tendance générale ou c'est une année comme ça puis ça va se renouveler et on va repartir vers la Coupe cette année bientôt?
Alors, moi, j'ai travaillé là-dessus, vous l'avez dit, j'ai travaillé sur le hockey. Je viens de publier un texte avec mon collègue Laurent Turcot de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a essayé de prendre ça dans une perspective historique, en essayant de voir un peu sur la longue durée. Bon, évidemment, on doit constater que ce qui se passe là, ça va très, très mal. Hein? Votre collègue le disait à l'instant.
Mettons.
On peut imaginer que ça aille un peu mieux dans l'avenir. Il y a eu comme ça des montées et des descentes. Nous, ce qui nous inquiète plus, ce qui nous intéresse plus dans notre perspective, c'est comment les Canadiens sont devenus une équipe très, très, très conservatrice et que de cette façon-là, on voit mal comment l'équipe pourrait s'en tirer à long terme. Elle peut s'en tirer après rapidement là, pour l'année prochaine ou l'année d'après. Mais on voit pas ça sur la longue durée parce que c'est une équipe qui n'a pas suivi ce qui se passe chez les autres équipes de la Ligue nationale depuis quelques années.
Elle est conservatrice dans sa méthode, dans sa façon de faire, hein?
Elle est conservatrice dans ses communications.
Ouais, hein?
Ouais. On ne sait pas grand-chose. Elle est conservatrice dans ses choix de jeu. Puis elle est conservatrice très clairement dans sa façon de concevoir ce que c'est que le hockey aujourd'hui. Il y a beaucoup d'équipes de hockey qui ont décidé que ce qu'il fallait privilégier, c'était la vitesse. Il faut sortir de sa zone le plus rapidement possible. Ça vous prend des défenseurs mobiles. Ben, la défense des Canadiens cette année, qui serait meilleure que celle de l'année dernière, avait dit Marc Bergevin,
oui.
Ne nous démontre pas ça. Hein?
Non, pas tellement, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouvais intéressant du texte qui a été publié dans la Presse Plus en fin de semaine, justement, en compagnie de Laurent Turcot, qu'on connaît bien, nous autres, à Trois-Rivières, à l'UQTR. C'est le fait qu'on en a dit tellement des choses sur le Canadien dans l'année. On a analysé les performances des joueurs. On a demandé si la stratégie du coach était la bonne, si le directeur général avait effectué les bons changements ou pris les bonnes décisions. On ne s'est jamais dit, puis c'est ce que je dis en ouverture d'émission tantôt, j'ai l'impression qu'on roule sur une réputation d'il y a 40 ans, à l'époque où justement on les appelait les glorieux, et depuis, on n'a jamais balancé vers les appeler les moyens ou les piètres même à l'occasion.
Ce qui arrive, c'est que dans l'histoire des Canadiens, il y a eu des moments où l'équipe a vraiment été très en avance sur les autres dans la façon de s'organiser, dans la façon de jouer. Hein, les Canadiens ont été la première équipe dans les années 40 à se doter d'une série d'équipes juniors ou dans la Ligue américaine. Donc, c'est ce qu'on appelle les clubs-écoles. C'est les Canadiens qui ont inventé ça parce qu'ils se sont dit « on a besoin de former nos joueurs ». Donc, à ce moment-là, ils étaient en avance sur ce qui se passait dans la Ligue. Dans les années 70, il y avait deux choix qui s'offraient aux équipes. Soit vous preniez la violence, c'était les Flyers de Philadelphie,
ouais.
Soit vous décidiez que vous alliez jouer très, très rapidement, les Flying Frenchmen. Et c'est comme ça que les Canadiens ont gagné leur Coupe Stanley dans les années 70. Puis en faisant ça, ils ont changé la façon de jouer. Donc, ils avaient changé la façon d'organiser dans les années 40 et 50. Dans les années 70, ils changent la façon de jouer. Là, actuellement, on ne voit pas du tout quel serait... Alors, ils appellent ça le plan, eux autres.
Ouais.
On ne voit pas du tout ce que serait ce plan-là, alors que les autres équipes, elles, ont déjà choisi. Elles ont choisi majoritairement, pas toutes, mais majoritairement, la vitesse, donc un changement de nature du jeu. Ben, les Canadiens sont à la traîne sur ce plan-là, puis on ne voit pas comment ça peut changer rapidement.
Dans le texte en question que vous co-signez avec M. Turcot le week-end qui vient de passer, il est question de désaffection du public envers le Canadien. Et croyez-vous, parce que moi j'ai l'impression que notre cote d'amour pour le Canadien va toujours être très grande, même si pour l'une des premières fois en 10 ou 15 ans cette année, on a commencé à avoir des bancs vides au Centre Bell.
Alors ça, c'est le paradoxe de l'affaire. Hein? Notre article paraît dans la Presse Plus, mais il paraît dans un cahier de la Presse Plus où il y a une dizaine d'articles sur le fait que les gens sont tristes du printemps. C'est un peu bizarre. Si ça allait si mal, est-ce qu'on ferait 10 articles dans la presse plus de dimanche pour parler de ça? Donc ça, c'est le paradoxe des Canadiens. Hein. Qu'ils jouent bien ou qu'ils jouent mal, ils occupent une telle place dans l'espace sportif et dans l'espace médiatique québécois que, quoi qu'il advienne, ils sont toujours là, on en parle toujours. Mais c'est vrai, alors moi, je suis allé au Centre Bell cette année à quelques reprises, ben, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de sièges vides. C'est vrai aussi qu'il se passe des choses très, très étranges pendant certains matchs. Moi, j'en ai vu un des pires de l'année, je pense, contre les Sharks de San Jose. Il n'y avait pas un son dans le Centre Bell. Personne ne parlait, personne ne ouais. criait. Les gens avaient même cessé de huer l'équipe.
Ce qui est une c'est chose triste quand même. Bizarre, ouais.
D'habitude, les gens se fâchent. Et là, ce soir-là, j'étais très étonné parce que j'ai eu de longues conversations avec mon voisin sans avoir besoin d'élever la voix parce qu'il n'y avait pas un son dans l'aréna. Donc, il y a quelque chose là, qui est en train de se passer. Ça ne va pas durer. Il s'agit qu'ils alignent quelques séries de victoires en début de saison l'année prochaine. Ça va se remplir de nouveau. Mais je pense que l'objet actuellement du désarroi de la population, c'est vraiment qu'on ne voit pas ce que cette équipe-là pourrait faire alors que les autres, elles, ont pris des décisions. Des décisions qui sont parfois contestées. Les Rangers de New York qui annoncent en février que eux c'est fini puis qu'ils vont reconstruire.
Ouais.
Là on voit une direction. On voit quelqu'un qui dit ben c'est ce qu'on va faire. Ça peut être mal reçu mais on voit ce que les gens vont faire.
Au moins on sait ce qu'ils font.
Direction ouais, actuellement ça. À Montréal. Ouais.
Exact. Au moins on sait ce qu'ils font.
Exactement. On sait où ils sont puis ils ont pris des décisions. C'est une décision cruelle. Tout le monde la leur reproche mais ils ont pris une décision. À Montréal on se dit qu'est-ce que c'est que la décision. Ben on attend puis on risque d'attendre encore assez longtemps.
Exact. Monsieur Melançon, il nous reste une trentaine de secondes. Quel message vous livrez à Geoff Molson, propriétaire de l'équipe?
Alors, quand il est arrivé propriétaire, souvenez-vous, il a fait des sorties contre la Ligue nationale de hockey. On s'est dit, tiens, voilà quelqu'un qui veut changer les choses. Ben, depuis quelques années, on a l'impression qu'il est complètement rentré dans le rang. Donc, il dirige une équipe conservatrice dans la Ligue sportive la plus conservatrice en Amérique du Nord.
Alors, c'est peut-être le temps du renouveau.
Ben, je pense que, à moins de vouloir revivre la saison qu'on vient de vivre, ce que je ne souhaite à personne, oui, il faut changer les choses, mais il faut changer les choses sur le plan même de l'orientation de l'équipe et du jeu.
On suivra ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Merci, M. Melançon, d'avoir pris le temps pour nous.
Ça m'a fait grand plaisir.
Une très bonne journée. Bye-bye. Benoît Melançon co-signe un texte dans La Presse Plus en compagnie de Laurent Turcot de l'UQTR sur, justement, l'espèce de fin de l'institution qu'était le Canadien, la fin de ce qu'ils appellent le grand club. Et c'est donc Benoît Melançon, professeur d'études littéraires à l'Université de Montréal, aussi auteur des livres Les yeux de Maurice Richard, une histoire culturelle et Langue de Poc, abécédaire du hockey.